J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
À toutes et à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. Le président Kabila a promulgué le vendredi 9 mars le nouveau code minier de la RDC qui abroge celui de 2002 qui était réputé favorable aux investisseurs au détriment de l'État congolais. Le nouveau code inclut un article sur la transparence qui pourrait poser les bases des futures régulations gouvernant les mécanismes de traçabilité des minerais et la publication de contrats des noms des propriétaires réels et des paiements versés à l'État. Notons par ailleurs que pour marquer leur désaccord face à cette loi, sept des principales sociétés minières opérant à RDC ont décidé de se retirer de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081 890 4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Polydor Basunga assure la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elamegi. J'ai le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
On se rappellera que le code minier, le nouveau, a connu des hauts et des bas. Ça fait couler beaucoup d'encre et des salives, comme on l'a dit. Mais enfin, il a été promulgué. On se tourne vers l'avenir. Quelles sont les forces de ces codes miniers? Comment arriver, bien sûr, à mettre tout le monde d'accord, même s'il a été déjà promulgué? Et quels pourraient être les avantages du côté des investisseurs miniers, mais aussi de l'État congolais, de la population? Nous en parlons dans Parole aux auditeurs. Et nous avons associé à cet échange Maître Mouzegiroa Elodie, avocate, mandataire à mines et carrière. Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour.
Et vous avez suivi, je crois bien, les débats autour de cette question du code minier.
Oui.
Et on en avait parlé la fois passée. Alors, peut-être on peut retourner un peu en arrière. Est-ce que le code de 2002 avait tellement beaucoup de faiblesses? Parce qu'on avait souhaité vraiment qu'il soit révisé.
Oui, il faut le reconnaître. Il y avait beaucoup de faiblesses dans le code de 2002 et il était temps, d'autant plus que ça faisait depuis plus de 10 ans qu'il était en application et qu'il était temps de revenir, non seulement peut-être sur les faiblesses, mais aussi sur les forces. Donc, il était temps de pouvoir évaluer l'application, les faiblesses, les forces et pourquoi pas, comme cela a été fait, de modifier.
Et quand on a modifié aujourd'hui, vous qui avez suivi un peu ces débats, on en avait parlé la fois passée, vous êtes revenu dans l'émission quand le gouvernement avait déposé ce code au niveau du Parlement. Quels sont les éléments que vous avez retenus, qu'on peut considérer aujourd'hui comme force, si vous avez suivi un peu ces discussions?
Bon, les éléments que je peux considérer aujourd'hui comme force, je ne peux pas aller au-delà des principales motivations qui ont amené à la révision de ce code, qui sont celles que vous connaissez, comme tout le monde, celles de faire bénéficier, pour cette fois, de la population congolaise de ses richesses. Vous savez que le Congo, la République démocratique du Congo est très riche en minerais, mais les vies des populations congolaises ne les reflètent pas. Mm-hmm. Et la principale motivation était de voir dans les dispositions de l'ancien code quels sont les points qui constituaient un blocage à cela. Et pour ce faire, il y a des dispositions, par exemple, dispositions fiscales, qui ont été considérées comme pas intéressante pour notre pays, notre trésor. Et il y a des dispositions sur le plan obligations sociales et environnementales. Mmh. Il y a des dispositions, par exemple, sur les rapatriements des devises. Il y a plusieurs dispositions qui ont motivé cela et qui ont fondé cette révision.
Mmh. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, quand on a suivi dans les débats, les gens estiment que le coup a été motivé par le fait que le cobalt aujourd'hui bat un record en bourse avec beaucoup d'argent. Mais c'est normal, on sait qu'il y a un minerai qui peut augmenter, mais à un moment, ça peut aussi chuter. Mais est-ce que la conception de la loi, elle reste standard ou elle est faite pour effectivement résoudre cette question du cours mondial du cobalt aujourd'hui que la RDC produit?
Non, moi je pense que ce n'est pas vrai. Et ce qu'ils le disent, c'est que il est, en tout cas, c'est abusivement que je dirais qu'ils les prétendent. D'autant plus que les réflexions sur la révision du code ont commencé avant que les débats sur les cours du cobalt s'invitent. Et donc, en plus de cela, le Congo n'a pas que les cobalt comme minerai. Nous avons plus de 1000 substances minérales dans ce pays. Il y a aux côtés du cobalt, le cuivre, l'or, le diamant, nous avons tout, et même des minéraux qui n'existent qu'ici au Congo. Donc le dire, ce serait pas vrai. Mm-hmm. En revanche, on dirait, bon, moi je dirais que il faut plutôt analyser la question sans passion.
Exact.
Et se mettre et du côté des investisseurs et du côté de l'État. Mm-hmm. Voilà.
Et c'est de cette façon. D'ailleurs, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions. Les chefs de l'État avaient reçu même les investisseurs. Ils leur avaient promis que les discussions devaient continuer. On a eu le contact avec certains investisseurs avant cette émission. Ils nous ont dit, effectivement, les discussions continuent avec le gouvernement. On pourra voir comment harmoniser les points de vue, quand bien même les autres ont décidé de se retirer de l'Afrique. En tant que mandataire en mine, quand des investisseurs se décident, des entreprises se décident de se retirer de l'affaire, qu'est-ce que ça peut avoir un impact négatif?
C'est très dangereux et ça n'augure pas de bon augure, parce que il faut comprendre pourquoi ils se sont retirés de l'AFEC. Ils se sont retirés de l'AFEC, c'est volontairement.
Estimant que la fédération ne les a pas beaucoup défendus.
Ils ont la chambre des mines au sein de l'AFEC, mm-hmm. qui est censée, qui sert, je dirais, de syndicat des entreprises minières. Mais ils ont considéré que les revendications ou leurs préoccupations
n'ont pas été tellement prises en compte dans les discussions.
Prises en compte, ça veut dire qu'elles n'ont pas été bien portées par la Chambre des mines au niveau de auprès de
du gouvernement.
Et pour cela, c'est parce que tout simplement il y a une version de la version qui avait été approuvée par toutes les parties prenantes n'est pas celle qui avait
été
envoyée
en dernière
au Parlement.
Ça a été d'ailleurs évoqué, n'est-ce pas, dans l'émission de la fois passée.
Oui, et donc ils se sont dit, pourtant, dans cette version-là, il y avait des convergences, mm-hmm. et il y avait des divergences sur lesquelles ils méritaient peut-être plus tard de revenir, mais au moins, en grande partie, il y avait des convergences, et ça ne pouvait pas être posé problème tel qu'aujourd'hui ça s'est posé.
Voilà. Oui. On va revenir à vous. Le débat, il est assez intéressant. On va bien sûr écouter les auditeurs, ce qu'ils en pensent. C'est vrai aussi que les gens n'ont pas encore les contenus globaux de ces codes. Le débat est lancé. Franck, vous êtes avec nous de Vienne. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez commenté abondamment et largement ce sujet sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Bonjour Franck et bienvenue dans Paroles aux Auditeurs.
Bonjour à mon ami Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui vont s'exprimer. Merci beaucoup pour la parole. La promulgation du nouveau code minier doit nous intéresser, nos citoyens congolais, dans la mesure où le domaine des mines constitue l'un des secteurs clés pour l'économie congolaise. Ainsi, par rapport à cette promulgation, l'on peut dire que tout citoyen congolais doit se réjouir de chaque décision politico-économique qui se prend au sommet des institutions étatiques tout citoyen congolais peut se réjouir de telles décisions s'il y a des implications positives sur les trésors publics et s'il y a aussi des implications manifestes sur les vêtus des citoyens congolais. En ce sens, on peut déjà saluer favorablement la révision de ces codes miniers comme citoyens congolais. Mais seulement, je crois que on doit plus seulement saluer favorablement de manière naïve et s'arrêter là-bas. Parce que nous savons, M. Pierrot, comment ça s'est fait chez nous. On a révisé, nous le savons, mais nous souhaiterions vraiment que cette fois-ci, que cette révision puisse plus profiter aux Congolais et à l'État congolais que par rapport aux autres. Mais malgré cette révision, nous savons aussi, par rapport à ce qui se raconte, qu'il y a des réclamations qui ont été déposées et que des recours seront étudiés selon les cas. C'est là où ça peut nous laisser perplexes, dans cette mesure que nous savons que pour le moment, notre gouvernement subit des pressions internes et externes. Et ce genre de sociétés minières sont constituées dans la plupart des cas des gens qui font des lobbying, soit pour le gouvernement ou contre le gouvernement. Alors, cette révision des cas par cas, ça risque de ne pas toujours être bénéfique pour les citoyens congolais dans la mesure où chacun des côtés chercherait à tirer la couverture de sa part. Ça signifie que les actuels dirigeants en place chercheront à faire de cette nuance un fonds de commerce pour faire voir aux autres que si vous ne plaidez pas pour nous afin que nous restions encore, qu'on ne parle plus de l'alternance, donc ce que vous pensez prendre là, ça ne serait plus possible. Et pour les autres, ils peuvent aussi fermer les yeux pour voir seulement leurs intérêts. Et je crois que c'est de ce côté-là que les citoyens congolais avertis que les structures des droits de l'homme militant contre les pillages des richesses minières du Congo doivent ouvrir l'œil. Parce que nous savons que dans la plupart des cas chez nous, on nous parle que nous avons un pays riche, nous le savons. Mais nous voyons nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs vivre dans la misère et on se demande, ces richesses minières de la RDC, ça profite à qui et ça profite à quoi? Parce qu'on en a, l'invité au studio dit qu'on en a plus de 150 ou plus de 1000, mais ça profite à qui? On les vend, quelle est la traçabilité de toutes ces recettes-là? Ça profite à qui? Ça profite à quelle couche de la population? Si c'est seulement à une minorité, alors je crois que là, on peut réviser ou ne pas réviser, ça ne concerne pas tout le monde.
Oui, merci.
Mais si cette fois-ci, la révision peut avoir des implications positives pour les Congolais moyens, c'est alors qu'on dirait que nos dirigeants en place commencent à comprendre qu'ils ont la mission de gouverner le pays, pas seulement par rapport à leur poche, par rapport à leurs états-majors, mais par rapport à l'ensemble de la nation congolaise.
Merci, Franck. Merci beaucoup, Franck. Vous souhaitez que la révision profite à la population. C'est pourquoi cette question de la traçabilité que vous avez évoquée tout à l'heure revient dans ce nouveau code, hein, pour savoir quels sont les exploitants, quels sont le vrai nom des propriétaires des sociétés, quelle est la part qui doit revenir à l'État. Et pour vous, et d'ailleurs, c'est à ces niveaux-là que tout doit être mis au clair sur la traçabilité des recettes, des dividendes, n'est-ce pas, qui vont être perçus à l'exploitation minière pour que ça profite à la population. Merci beaucoup, Franck Sylvain. Vous êtes à Bounia, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Sylvain.
Je pense que le code minier que nous étions en train d'attendre est très important. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, ça fait plus de 7 ans, c'était pratiquement de la prédation de la RDC. Donc, on a mis en place des textes qui ne garantissent pas la protection de nos richesses naturelles. Et lorsque vous regardez les problèmes de développement de notre pays, vous vous rendez compte qu'apparemment, tout ce qu'on fait en termes d'exploitation des ressources naturelles de notre pays ne bénéficie pas à la RDC, comme Franck venait de le dire, Berger le Sali. Alors, ce qui doit être dit aujourd'hui ici par rapport à ces codes, ce n'est pas seulement la traçabilité, et même non seulement la question des redevances, qui aujourd'hui doivent être frappées, ou qui doivent frapper les richesses ou les intérêts qu'auront les multinationales dans les domaines miniers. Mais moi, si j'ai appelé, c'est pour dire quelque chose. Et je pense que c'est important ce que je veux dire. Pourquoi? Puisque Moi, j'ai toujours pensé que les vrais problèmes de ces pays, ce ne sont pas des textes. Bien sûr, je suis d'accord avec ceux qui pensent que ce nouveau code minier par rapport au code de 2002 a essayé d'évoluer par rapport surtout à la gestion des redevances. Ça, c'est tout à fait normal et par rapport aussi à la gestion des traçabilités. Mais ici, qui va appliquer ces nouveaux codes miniers? Est-ce que le code minier essaie peut-être de s'orienter vers le développement de la RDC? C'est ça ma question. Mais aussi, est-ce que c'est là qu'il faut mettre ça en pratique? Sont sincères vis-à-vis des responsabilités d'État et des responsabilités de développement par rapport aux problèmes du Congo. Je prends le cas de l'Ituri. Nous avons connu une grande guerre ici et nous sommes en train de penser que, avec l'actuelle guerre, c'est la guerre des multinationales. Donc, dans la guerre des entreprises. Et la guerre des entreprises, pourquoi? Puisque les cadres législatifs et même légal qui protègent les secteurs ne les font pas correctement. Et je me dis aujourd'hui, avec ce nouveau code minier, est-ce que la population, ou soit la nation congolaise, sera à même de trouver sa part. Les multinationales aujourd'hui, qu'ils quittent l'Afrique ou qu'ils ne quittent pas, c'est de leur liberté. Je voudrais faire les deux analyses au même moment. C'est de leur liberté, d'entrer dans l'Afrique comme de sortir. Mais là n'est pas le problème. Et je me dis même que ça ne peut même pas engager un débat. Mais le problème, est-ce que ces multinationales, ces entreprises minières, sont disposées à faire de la RDC un pays développé par ses ressources minières? Je ne pense pas. Je prends les cas, par exemple, des mondes africains, ici chez nous en Ituri. Ce sont des entreprises, tout le monde le sait. C'était des mafias qui se faisaient là-bas. Mais aussi, qui sont actionnaires de ces entreprises? Des fois, nous-mêmes, Congolais. Nous, Congolais, nous participons à ces entreprises minières, mais qui, malheureusement, exploitent négativement nos richesses naturelles. Donc, moi, je pense aujourd'hui, le débat doit être par rapport à l'homme qui doit mettre à place cet outil-là. Il faut que la mise à place de ces codes miniers puisse corroborer avec la vision du développement de notre pays, et que l'homme, puisque je me dis aujourd'hui, le président Kabila n'est pas le mieux placé à gouverner ces codes miniers. Il faut un nouveau régime qui va venir mettre à place ces codes miniers, et c'est comme ça que je dis que tout de suite, nous n'avons pas la chance que ces codes miniers fassent son travail correctement, mais un régime qui vient avec une vision, n'est-ce pas? Donc, un pouvoir qui vient avec une vision de réconciliation, comme Franck l'a dit, notre économie.
Et là, comme vous l'avez dit, Sylvain, bon, c'est une question de vision. Faudrait-il aujourd'hui avoir dans ce qui vont venir demain, parce qu'on est dans le processus. On espère qu'il y a de nouvelles personnes qui viendront avec cette vision de la gouvernance, parce que vous avez insisté sur la question de la gouvernance. Parce que le problème, c'est pas les textes, c'est la capacité d'avoir de responsables qui sont sincères et qui disent effectivement que les redevances de l'État soient, bien sûr, canalisées vers les trésors publics, quitte à voir. Mais en attendant, le code, parce qu'il est promulgué maintenant par le président Kabila et ceux qui sont là maintenant, nous espérons que votre souhait sera entendu et que les redevances vont entrer dans les trésors publics et que ceux qui vont venir vont emboîter les pas pour que le code profite réellement au développement du pays, selon votre souhait. Merci beaucoup. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Ismaël.
Oui, moi je comprends, je me suis posé la question quand j'ai suivi l'invité. À force que les sociétés minières cherchent à casser les contrats avec la convention avec la FET, est-ce qu'ils ont raison si nous faisons un peu l'analyse de tout ce qui se passe? Parce que nous allons en profondeur du commentaire, vous voyez que le Congo est connu comme un paradis terrestre. Qu'est-ce qui manque comme minerai? Combien de sociétés minières qui exercent leurs fonctions ici en RDC? Mais apparemment, parce que nous vivons au Katanga, en pleine Katanga, où tout y est, sauf rien. Je me suis posé la question de savoir réellement si la loi a daté et on a renouvelé cette loi, que ces derniers cherchent certains mécanismes pour dire que ça ne va pas, nous allons laisser l'Afrique. Et nous allons continuer à faire certaines choses. Le problème, ce n'est pas celui-là, parce que même si elles vont partir, il va aussi y avoir d'autres personnes qui vont venir. Quand les prix des métaux ont chuté, nous avons vu que les budgets de l'État ont bougé. Mais maintenant qu'il y a maintenant les hausses de prix, on ne devait pas encore rester sur le même pied. Mais le problème aujourd'hui, parmi les sociétés minières qui exercent leurs fonctions ici, je vous dis, si vous allez vous trouver 90% population congolaise qui travaille comme journalier. C'est ça le premier problème que nous avons. Comment on peut aider cette population qui vit sous le minerai qui ne tire pas profit de ces minerais. Ce que le gouvernement, ce que le Parlement a fait, c'est quelque chose de louable. Pourquoi? Parce que nous pensons maintenant qu'ils accordent aussi l'intérêt à la population qu'ils sont en train de voir vivre dans une misère intense. Et pourtant, on est de la malnutrition, c'est nous-mêmes. Pourtant que ces sociétés devaient faire beaucoup pour la population. La révision des codes miniers, c'est une bonne chose. Et la promulgation de cette loi, nous pensons que ça peut aider aussi la population pour se relancer. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dit les régimes. Le problème, c'est le problème de l'administration. Est-ce que nous avons une forte administration? À force qu'on travaille pour nos propres intérêts, il est difficile que la population se retrouve. Demain ou le lendemain, nous pensons avoir des sociétés minières qui s'occuperaient de la population. Nous avons beaucoup de sociétés minières ici que vous ne trouverez même pas une école à leur charge. C'est très difficile et très compliqué.
Et alors là, Ismaël, vous évoquez cette question des obligations sociales. Notre invité le disait tout à l'heure, les obligations sociales et environnementales. Il faudrait quand même qu'il y ait un pacte social entre les investisseurs et les populations locales et que les populations locales puissent bénéficier directement de l'installation de ces sociétés dans leur milieu. Mais parce que vous avez évoqué les conditions dans lesquelles le Congolais travaille aujourd'hui dans ces différentes sociétés, rappelons quand même que nous avons eu beaucoup de débats autour de la loi sur la sous-traitance et son implication surtout dans les secteurs miniers. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons suivi le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Mouyej, qui a beaucoup insisté sur le fait que le gouvernement provincial de Lualaba va se battre pour l'application de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs miniers, afin que les Congolais puissent se retrouver. Je crois que l'application du code peut amener à résoudre toutes ces questions, mais aussi le renforcement de l'administration, comme vous l'avez évoqué. Merci beaucoup. Avant de revenir à ces studios, à notre invité, nous allons vous écouter, honorable Nanou. Vous nous appelez Delicacy. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Ok. D'abord, je vous félicite de l'initiative parce que je crois que c'est le moment où nous devons parler de ce code minier. Il est vrai que nous sommes avec la population malgré que nous avons la casquette de minier. Et pour le code minier qui vient d'être promulgué, nous devons saluer les points, les innovations qui sont entre autres l'aspect du régime fiscal, l'aspect du régime douanier et l'aspect même du code minier qui entre dans la redevance minière. Mais la seule question qui revient toujours quand je dois me mettre du côté de la population, ça c'est la forme. Mais est-ce que le fond sera respecté? Aujourd'hui nous sommes à 10% de la redevance minière. Quand vous prenez l'explication de la redevance minière, c'est un fonds alloué au développement de la communauté de base. Est-ce que les 10% seront réellement versés pour le projet de communauté de base? Je ne pense pas. Moi, pendant les discussions, j'ai eu la chance de parler avec les autorités, j'ai eu la chance de parler avec certains députés, où j'ai insisté qu'il fallait retirer le versement de la redevance minière au trésor public. Il fallait que ce fonds soit versé soit à la municipalité, soit dans la communauté de base qui sera réunie au niveau de nos territoriales, ou soit dans des provinces par rapport aux ONG. Aujourd'hui, même si nous mettons la redevance minière à 25%, si cette redevance minière n'est pas allouée, n'est pas amenée, n'est pas gérée en bon escient, ça sera déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Peut-être enrichir aussi certaines personnes. Mm-hmm. Là, c'est ça le problème. Mais par rapport au code minier, en tant que Congolais, je crois qu'il y a des changements visibles, des changements qui doivent être vraiment loués. Et par là, nous félicitons le chef de l'État. Évoluer par rapport au point des miniers. Aujourd'hui, les miniers quittent l'AFEC. C'est normal. C'est normal, il n'y a pas de débat. L'AFEC a été créée pour devenir un comité syndical de miniers. Mais aujourd'hui, à l'AFEC, nous sommes gérés par quelqu'un qui est dans le gouvernement et pour le gouvernement. C'est impossible. Nous sommes passés par l'université. Vous ne pouvez pas avoir un président des étudiants qui est aussi PO. Ça n'existe pas. Il doit être étudiant, comprendre le mal des étudiants et le problème des étudiants. Aujourd'hui, Albert Yuma a tapé à côté. Il doit aller à la Banque centrale, peut-être. Aujourd'hui, le minier que nous sommes, nous allons nous regrouper, peut-être réformer l'AFEC, parce que tuer l'AFEC, on ne le fera pas. On va réformer l'AFEC, passer aux élections, nous créer un président dit de ce nom qui va nous représenter comme minier. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, honorable Nanou. Voilà. Quand on pourra lancer les débats sur la réforme de l'AFEC, on pourra encore se retrouver ici, dans Parole aux auditeurs, pour en parler. Merci beaucoup. Et vous dites, oui, mais pour les 10% de redevance, vous auriez souhaité voir cela versé directement à la municipalité plutôt que passer par les trésors publics. C'est une question de méfiance qui a été évoquée depuis le début de l'émission par beaucoup d'auditeurs qui estiment réformer, c'est bien, mais est-ce que cela va vraiment profiter à à la population. Nous avons ingénieur Mango Yossi à Kinshasa. Vous gardez la ligne. On va revenir à vous. Jérôme Sekana, analyste économique. Merci aussi d'être avec nous dans cet échange. On va revenir à vous. Je rappelle le numéro d'appel pour intervenir en direct. 081-890-4969. 081-890-4969 pour intervenir dans cette émission consacrée au nouveau code minier.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Mounazo et Jean-Didier Ogoubani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Voilà, merci Polydor, maître Elodie Muzigiroa, vous êtes avocate, mandataire en mine et carrière. Vous avez suivi la plupart, les auditeurs saluent le fait qu'on ait un nouveau code, c'est un texte, ça ne veut pas résoudre tous les problèmes. S'il n'y a pas la question de l'applicabilité, la volonté de pouvoir profiter, faire bénéficier de la population de cette manne minière que nous avons. Alors, quelle réaction par rapport à tout ce que les compatriotes venaient de dire?
Merci, je remercie tous les auditeurs qui venaient d'appeler. Je crois que on peut sentir dans la plupart des intervenants, dans la plupart des auditeurs qui ont appelé, je ne dis pas un acharnement, mais une révolte contre les miniers. Et je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas fondé. Pourquoi? Il y a deux intervenants qui ont parlé du souci que les miniers doivent avoir pour développer le Congo. Non. Les miniers n'ont pas, lorsqu'ils viennent, le premier souci.
Ils viennent faire les affaires.
Ils viennent faire les affaires pour tirer des bénéfices et des profits. Ils ne viennent pas comme principale motivation le développement du pays. Non. Le développement du pays, c'est le souci de l'État. C'est les gouvernants qui doivent avoir cette vision-là de développer le pays à travers les ressources minières que nous possédons. Et donc, c'est là que je voulais réagir par rapport à toutes ces interventions. Mm-hmm. Maintenant, par rapport aux différentes questions qui venaient d'être évoquées par les intervenants, je crois qu'on doit noter que l'investissement dans les mines, c'est pas un business comme tout autre. Donc ce n'est pas que vous allez, vous dites j'ai $1,000, je vais acheter les haricots et puis je vais revendre, voilà, j'aurai 2,000 ou 3,000. Non, les investissements miniers, c'est des gros investissements qui s'étalent sur des années. Et donc je crois que pour analyser les innovations ou les bénéfices ou les avantages qu'offre ce code, il faut aussi analyser les désavantages parce qu'il y en a. Et là, revenir sur les investissements miniers, qui sont des gros investissements et pour la plupart ne viennent pas d'eux-mêmes. Donc c'est des fonds qu'ils lèvent sur le marché boursier et qui doivent être remboursés. Alors, lorsqu'un minier vient, il interroge la législation à la matière, il interroge les lois du pays, il interroge, il regarde le climat des affaires. Et c'est sur base de ça qu'il dit oui, je vais lever des fonds pour investir. Et donc, s'il faut revenir maintenant sur la question du code minier, il faut dire que les miniers se sentent lésés. Pas parce qu'ils n'ont pas de soucis de développer le pays, mais c'est parce que ils avaient des plans. Ils ont levé des fonds. Ce sont des projets sur un long terme. Et brusquement, parce qu'il faut y revenir, l'une des revendications ou l'une des préoccupations des miniers, c'est la clause de stabilité. Ça veut dire que lorsque il y a un nouveau code qui est voté, il faut attendre 10 ans pour qu'il puisse produire les effets. Or, dans les codes miniers, dans les nouveaux codes, cette disposition, l'article 276, c'était dans l'ancien code, n'a pas été repris, clairement. Donc, on a renvoyé la question au règlement minier. Or, vous savez très bien qu'un règlement ne peut pas contredire, ne pourra pas contredire
la loi.
Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs dispositions, parce que c'est ça qui a été donné comme réponse aux miniers, comme quoi il y a le règlement minier qui va préciser d'autres questions ou va lever certains équivoques. Mais il faut toujours garder à l'esprit que cela ne pourra pas contredire la loi. Alors, ce qui a été très important que j'ai gardé aussi dans les différentes interventions, c'est que le problème, c'est nous-mêmes, c'est notre gouvernement, c'est notre État qui doit s'interroger sur comment faire bénéficier effectivement notre population de ces ressources. Et là, on parle des questions de gouvernance, on parle des questions d'administration, on parle parce que aujourd'hui, si on vous dit que ce qui est payé par les miniers et ce qui est versé au trésor, et c'est vraiment la nuit et le jour. Donc, ce qui est payé est énorme, mais ce qui est versé dans le trésor est insignifiant et ne peut pas rencontrer les besoins
De la population. Et c'est ça la responsabilité du gouvernement congolais.
Oui, c'est ça la responsabilité du gouvernement congolais. Il faut donc réfléchir. Est-ce que le souci, c'est de d'alourdir les taxes, c'est de alourdir, c'est de créer un environnement qui n'est pas attractif aux investisseurs. Pour par exemple, si vous avez 50% d'impôt sur 100 millions de dollars, c'est bon, vous pouvez vous frotter les mains. Et si vous avez 20% d'impôt sur 20 milliards de dollars, vous pouvez aussi vous interroger sur ce qui est mieux, ce qui serait mieux. Or, dans l'état actuel du code, dans l'environnement actuel, il est clair que vraiment nombreux investisseurs vont
hésiter,
vont réfléchir par plusieurs fois avant de s'engager. Alors,
un autre élément,
c'est que il faut voir les avantages indirects. Bon, comment je vais dire les avantages directs qui sont énormes lorsqu'il y a beaucoup d'investisseurs. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'investisseurs, vous avez les biens et services qui vont bénéficier aux populations, les devises vont circuler, donc tout ça, et les populations vont trouver son compte. Plutôt que de rétrécir, d'alourdir et de faire fuir
les investisseurs
qui payent les peu et dont les peu là qu'ils payent ne bénéficient même pas parce que la répartition n'est pas équitable.
Et d'ailleurs, ce qui a été évoqué l'autre fois par l'ancien premier ministre Matata Mponyo qui parlait des coulages, des recettes, on paye beaucoup mais l'État n'en bénéficie pas tellement. On va revenir à vous, ingénieur Mangoyo, vous nous avez rejoint, vous êtes ici à Kinshasa, merci, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Piero.
Et on vous écoute.
Merci pour ma part accorder la parole. Piero, moi je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je crois que les autres ont presque tout dit. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Moi d'abord je regrette parce que vous savez, la Constitution a prévu un délai pour lorsque la loi est votée au niveau du Parlement. Et il y a un délai qui a été prévu dans la Constitution pour que le chef de l'État promulgue cette loi-là. Pourquoi je dis ça? Je regrette ce retard qu'a pris la promulgation de cette loi, parce que vous savez, pendant tout ce temps, comme l'a dit Franck, le secteur minier est en fait rempli de gens qui font les lobbying, les lobbies qui sont là-dedans. Pendant ce temps, certainement, les gens en ont profité pour essayer de concerter et voir comment réagir à ces projets de loi qui étaient encore jusque-là un projet de loi. Donc je crois qu'à l'avenir, il faudra que nos dirigeants fassent un effort pour que la Constitution soit respectée comme nous l'avons toujours souhaité. Ça, c'est pas une observation. Deuxième observation, je voudrais un peu parler, réagir par rapport au dernier intervenant avant madame, votre invité. Il doit apparemment être acteur du secteur minier. Et il a parlé de la transparence qui n'existe pas dans ce domaine par rapport à, aux 10% qu'on verse là en termes de redevance qui ne profite pas au peuple congolais. Mais je voudrais lui poser la question, parce que le chef de l'État, avant de promulguer bien carré tard cette loi, avait reçu une délégation de tous ces investisseurs-là. Je voudrais savoir si, parce qu'ils doivent avoir ces chiffres-là, ils savent combien ils ont versé en termes de redevances trésor public. Est-ce qu'ils ont discuté avec le chef de l'État et par rapport à ça, pour dire, écoutez, nous avons versé autant, je crois qu'avec cet argent, on pouvait bien et aussi faire profiter en fait au peuple congolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'ils ont échangé avec le chef de l'État autour de ça? Si oui, qu'ils nous disent les niveaux de ces redevances-là, parce qu'ils doivent détenir les chiffres. Et troisièmement, je voudrais dire ceci. Je crois que je crois que le problème est de voter une loi et de la promulguer. Et notre problème, c'est, comme on l'a toujours dit, c'est la mise en œuvre. Et là, nous le savons que nous avons des faiblesses. Alors, c'est pourquoi, Pierre, moi, je pense que, surtout avec cette histoire des règlements miniers, comme l'a dit madame, tout le monde le sait, un règlement ne peut pas contredire la loi, mais nous craignons fort que les gens puissent profiter de ces règlements miniers pour essayer de marcher à contre-courant. Alors, je crois que ce qu'il faut faire maintenant là, moi, je pense, Pierrot, qu'à ce stade, avec le gouvernement que nous avons actuellement, je crois qu'il sera difficile de faire profiter au peuple congolais des recettes de notre secteur minier. Alors, je crois que c'est seulement le gouvernement qui viendra. Parce que comme l'un des intervenants l'a dit, nous-mêmes les Congolais aussi, nous sommes, si vous regardez très bien...
Alors, ingénieur Mangoyo, vous estimez... Bon, pour gagner le temps, vous avez évoqué des éléments clés dans votre intervention, mais là, vous chutez en souhaitant, comme Sylvain, que le gouvernement actuel ne va pas faire profiter à la population. Faudrait-il attendre aujourd'hui de nouveaux dirigeants? Mais nous inscrivons dans la logique de la continuité, n'est-ce pas, du pouvoir. Ceux qui ont voté la loi, ceux qui l'ont promulguée, ils vont l'appliquer, peut-être ceux qui viendront demain, et puis on pourra faire l'évaluation. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. Jérôme Sekana, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes analyste économique. Vous avez tellement suivi cette question du code minier. Vous avez réalisé des documentaires, de reportages autour de cette question. Alors, au-delà de tout, quels sont les éléments clés que vous avez retenus qui sont profitables, d'abord, qu'on peut dire comme avantage dans ces codes par rapport au code de 2002, Jérôme? Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord donner des précisions par rapport à ce que je viens d'entendre à l'antenne. Les avantages, il y en a beaucoup. Pour vous donner un chiffre d'entrée de jeu, l'ancien code nous procurait plus ou moins 800 millions de dollars l'an, et les nouveaux vont nous procurer au bas mot 2 milliards de dollars. Et si les choses évoluent telles que ça se passe maintenant, et jusqu'à la fin de l'année, on pourra peut-être, parce que la tonne métrique du cobalt est à 87 000 dollars, nous osons croire qu'on peut aller au-delà de 2 milliards de dollars. D'abord, premièrement, en ce qui concerne l'importance de l'audience que le chef de l'État avait accordée. J'étais au Palais de la Nation sous la rotonde, j'ai suivi, j'ai couvert cette audience, j'ai compris que les miniers étaient venus très fâchés, mais ils sont sortis un peu souriants, tout simplement parce que leurs attentes ont été un peu prises en compte, dans la mesure où on va examiner au cas par cas et filière par filière au niveau du règlement minier, parce que pour eux, l'AFEC ne les a pas défendus. Et j'ai entendu à l'antenne, il y a ceux qui sont intervenus pour dire que bon, on pourra réformer. Il n'y aura pas à réformer l'AFEC. Ce qui est vrai est que les miniers sont en train de constituer un syndicat à part, parce que c'est 85% des exportateurs du cuivre, du cobalt qui ont publié ces communiqués-là. Ça, c'est de un. De deux, en ce qui concerne, j'ai suivi tout à l'heure la compatriote qui parlait de on a brusquement changé. Non, on n'a pas changé brusquement le code minier. Il vous souviendra que le code minier, l'ancien, a été promulgué par le chef de l'État. C'était le 11 juillet 2002. Et que au lendemain du 11 juillet 2012, on devrait le réviser parce que le code disait que il ne pouvait pas être révisé avant 10 ans. Et on a attendu 16 ans. Tout simplement parce qu'il y avait 6 ans de discussions. Les gouvernements a essayé de prendre langue avec tout le monde, notamment la société civile. Je fais partie de la société civile. Et par moments, les miniers ne venaient pas pour participer au débat, envoyer des gens qui n'avaient pas des décisions. Ils préféraient aller à Indaba. Et en fin de compte, on a quand même examiné le problème dans toutes les facettes et on est arrivé à ces conclusions qui n'ont pas plu à certains miniers. Et c'est là où je vais évoquer maintenant le problème de ces miniers. Ce sont des partenaires privilégiés. Les partenaires privilégiés, quand on l'accueille même dans le monde des affaires, quand on reçoit un grand client, on les reçoit avec sourire aux lèvres, avec une tasse de café, on s'adresse à lui avec des belles paroles. C'est ce que le chef de l'État, je crois, a fait. Mais on doit lui dire aussi la vérité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit profiter également de cette embellie. Sur les 100 000 tonnes de cobalt que le monde a besoin aujourd'hui, parce que la demande mondiale est à 100 000 tonnes, je vous dis que 80% de cette production provient de la République démocratique du Congo. Même ce que la Chine est en train de déclarer, en tout cas si on coupe avec l'exportation du cuivre et du cobalt, notamment en République démocratique du Congo, cette production va chuter.
Alors Jérôme, oui. Jérôme, ça c'est dans le fait. Bon, il reste en question des prévisions. On peut espérer aujourd'hui qu'on peut exporter autant, ça peut nous produire 2 milliards, mais il reste aujourd'hui les mécanismes pour que cela soit profitable pour les trésors publics. Est-ce qu'au niveau du code actuel, quels sont les mécanismes clairs qui peuvent faire à ce que les redevances aujourd'hui profitent aux trésors publics? Vous le savez, on a toujours dénoncé que les miniers peuvent payer, les redevances peuvent être perçues, mais il y a un écart entre ce qui est perçu et ce qui est aujourd'hui comme réalité dans les trésors publics. Alors, quels sont les mécanismes aujourd'hui qui peuvent faire qu'effectivement l'État congolais profite de toutes ces redevances sans qu'il y ait encore cette évasion comme on l'a toujours dénoncé?
Voilà. D'abord, il faut savoir que nous devons renforcer l'ITIE. L'ITIE fait quand même un bon boulot. Et il faut que nous ayons au niveau de nos régies financières des experts qui savent bien décortiquer les plans d'investissement par rapport aux amortissements. Là, il y a un problème très sérieux parce que les miniers parfois gonflent les charges pour éviter de payer de payer beaucoup à l'État. Parce que au jour d'aujourd'hui, pourquoi les miniers se fâchent quand on parle des super profits? C'est parce que le nouveau code dit que les super profits, c'est 50-50, 50%, 50%. Et ça va faire rentrer beaucoup d'argent. Nous devons arriver au niveau du règlement minier à mettre les choses au clair, notamment en ce qui concerne, par exemple, le contrôle, oui, la surveillance des rapatriements. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez retenir qu'on a renforcé, par exemple, l'article 169 en ce qui concerne les rapatriements de produits de minerais vendus à l'étranger. Au lieu de rapatrier 40% comme ce fut le cas pour renforcer notre offre en devise, eh bien, ça sera 60%. Mais le nouveau code ajoute une innovation. C'est pour un temps, c'est-à-dire les rapatriements des 60% en RDC et on garde 40% à l'étranger, mais ce fera que pendant le moment où il y a amortissement de l'investissement. Juste après l'amortissement de l'investissement, c'est 100% des produits de vente de minerais à l'étranger qui doivent être rapatriés en République démocratique du Congo. Avec comme conséquence, l'offre en devise sera améliorée et ça peut aider à notre économie pour avoir éviter la dépréciation monétaire. Mais nous devons également nous organiser. Ne pensez pas que comme tout à l'heure, comme disait madame tout à l'heure, la compatriote qui est sur le plateau, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux et ils ne peuvent pas nous partir non plus, parce que au jour d'aujourd'hui, nous produisons le gros. S'ils partent, eh bien, ils vont perdre également. Donc ils se sont fait
beaucoup d'argent pendant avec l'ancien coach qu'ils acceptent. Nous, la République démocratique du Congo, nous avons, le gouvernement a attendu 6 ans pour réviser. Mmh. Et ils peuvent attendre aussi 5 ans parce que désormais, la révision ne pourra se faire qu'après 5 ans.
Voilà.
Et il y a des innovations très importantes.
Merci.
Les nouveaux codes réhabilitent le gouvernement congolais dans toutes ses prérogatives régaliennes.
Voilà, merci. Jérôme. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Mais l'intérêt, comme les auditeurs l'ont dit, hein, c'est le fait, effectivement, que ces avantages reviennent vraiment à l'État congolais. Vous avez évoqué cette question de rapatriement de 40 à 60%. Rappelons, même quand c'était 40%, il y avait déjà des problèmes pour le rapatriement des capitaux. Le chef de l'État, il y a quelques mois, et avait même souhaité vraiment que cette disposition soit encore appliquée quand il y avait cette histoire de dévaluation de la monnaie nationale et que ces entreprises ne rapatriaient pas les 40% des capitaux des devises. Mais voilà, comme vous l'avez dit, on espère qu'avec le règlement minier, on pourra mettre tout le monde d'accord, que ce soit les investisseurs, que ce soit le gouvernement congolais. Kassamba, vous êtes à Bounia, vous avez suivi largement les uns et les autres en 1 minute et demie, hein, votre point de vue autour de cette question du code minier. Kassamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, l'invité ou les invités qui se partagent et rompent ce canal aussi là-bas. Moi, mon problème, c'est d'abord, c'est un acte de haute portée patriotique. Le fait d'avoir révisé ce code minier. Ce code minier avait donné beaucoup de latitude aux opérateurs miniers de faire ce qu'ils pouvaient faire. Surtout dans la clause de stabilité. Ça fait qu'il y a des concessions que les gens avaient gelé des années, à les mettre en valeur. Et nous devons aussi mettre en tête que les ressources minières, ce sont des ressources qui s'épuisent. Ça ne se renouvelle pas. Alors il ne faut pas qu'on puisse jouer avec ça, même si nous reprochons certaines choses, mais l'homme est appelé à changer. Dans les bonnes conditions, les hommes congolais vont tirer profit de ce code minier. C'est un code minier pour lequel la société civile s'est battue bec et ongle. Alors, comme le frère de la République l'a promulgué le 9 mars ici, nous sommes très contents. Nous en sommes très contents, à déplaise à ces gens-là qui veulent garder tout sur le dos de la population congolaise. Nous ne souhaitons que
au nouveau code minier. Voilà, merci beaucoup, Kassamba. On va terminer avec vous, Madame Joséphine. Merci de nous avoir rejoint. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Pierrot. Hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci vraiment très vite. Hein. Depuis que tout le monde a appelé, même toi, c'est seulement une fois que tu as parlé de chiffres. Vous savez, dans cette histoire, même quand les miniers sont allés voir le président Kabila, personne ne connaît les chiffres. Vous savez, la bourse de minerais à Londres a augmenté à 84 000 dollars, je crois, la tonne. C'est pour cela que tout le monde au Congo s'est réveillé pour commencer à parler du code minier. Mais nous, malheureusement, comme moi, j'ai grandi au Katanga. En grandissant, nous connaissons seulement la Gécamine et la FNCZ. La Gécamine avait dans le temps 30 000 travailleurs. Quand il y a les investissements comme ça, même ici aux États-Unis, on peut parler d'une compagnie qui vient dans la ville ou bien qui vient dans la région, qui va faire ses business. On parle toujours de la population. Plutôt, le président Kabila, avec tout le code minier qui veut faire la réforme, on pouvait parler combien de travailleurs que les gens-là ont engagés, vont engager. Le président Kabila, en 2002, ils ont parlé de la... ils ont fait la réforme, bien parlé de code minier pour 10 ans. Il a fait des bons calculs, il savait que peut-être il va faire 2 mandats. Après 2 mandats, il va partir. Même ces gens-là, ils ont profité à 2% de taxes. Quand on dit taxes, on voit seulement que c'est les taxes qu'on doit à l'État. Mais quel est l'intérêt de la population? L'État pouvait les imposer d'abord d'engager beaucoup de travailleurs. À part les taxes que l'État va récupérer à l'entreprise, si l'entreprise, les miniers, engagent beaucoup de travailleurs, dans leur salaire, les travailleurs doivent payer aussi les taxes. C'est comme ça qu'un État doit raisonner. On nous a déjà dit que les médiocres dégagent, on nous laisse un gouvernement intelligent, un gouvernement qui sait faire le business, par rapport à un gouvernement qui a donné aux miniers 2% des taxes. Et maintenant, on va passer de 2% à 10%. Dans quel business, un businessman peut accepter comme ça? Là où il paye 2%, d'un coup, il va commencer à payer 10%. Quand il y a beaucoup de taxes, trop de taxes, ça tue les taxes. C'est comme ça. C'est tout ça, les miniers, les codes miniers, la réforme, c'est la mafia. C'est la mafia. Il y a combien de travailleurs qui travaillent dans
merci, leur, merci beaucoup, dans madame. Merci beaucoup, madame Joséphine. Mais il est difficile aujourd'hui, oui. Il est difficile parce que vous avez évoqué la question des chiffres. Rappelons aujourd'hui qu'il est très, très difficile d'avoir concrètement des chiffres clairs en termes d'emplois octroyés, n'est-ce pas, dans le secteur minier. Tout en plus, vous avez suivi notre ami de Lubumbashi, Ismaël, qui disait que la plupart des gens sont des journaliers. Combien de gens ont un contrat dûment signé avec des entreprises minières, c'est toutes ces questions. Jérôme Sekan a donné des précisions sur combien d'argent on pourra avoir. On peut partir des 600 millions, de 800 millions à 2 milliards de dollars. Ça reste encore ces chiffres. Alors, on va revenir dans ce studio rapidement avec vous, Maître Elodie Muzigiro, pour terminer cette émission. On a suivi les uns et les autres. Les débats restent ouverts. En un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir pour clore ces débats?
En un mot, ce qu'on peut retenir, monsieur le journaliste, cher auditeur, je crois que l'État doit savoir que nous avons une image. Le pays doit soigner son image. Et l'image que notre pays donne aujourd'hui au regard de cette question-là n'est pas tout à fait bonne. Donc, il faut vraiment que il puisse y avoir
une harmonisation exact avec le gouvernement et les investisseurs,
parce que ce n'est pas l'augmentation des taxes qui produit les richesses, c'est l'augmentation des investissements. Et pour vraiment finir, je disais,
en un mot,
il faut faire la paix et que les dossiers soient réglés au cas par cas, sans inquiétude, et que la Merci. Société civile puisse rester éveillée quant à la suite.
Merci.
Parce que on doit comprendre que la grande question ici, ce n'est pas l'augmentation des taxes, mais c'est par rapport à la vision. Est-ce qu'il y a une vision pour
Merci.
Le développement de ce pays afin que les richesses puissent profiter
Merci beaucoup, maître.
Des populations?
Voilà, merci beaucoup, maître Muzigiro. Elodie, nous avons quelques secondes pour accorder à Nico Calabra.
Rapidement.
Parce qu'on va se retrouver demain à 10h.
Oui. Merci, Pierrot. On sera là demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Une conférence internationale congolaise, une conférence internationale organisée la semaine dernière à Paris a recommandé, entre autres, l'option de transférer les eaux du fleuve et de la rivière Ubangi pour réapprovisionner le lac Tchad, dont la s'accentue. La société civile du Nord Ubangi s'oppose à cette décision et dans une déclaration à la presse, Monsieur Taïma, le coordonnateur de la société civile Nord Ubangi, soutient que la déviation des eaux de l'Ubangi vers le Tchad aura des conséquences néfastes sur les écosystèmes du Nord et Sud Ubangi et sur la population riveraine qui ne vit que de la pêche et l'agriculture pratiquée le long de ce cours d'eau. Comment commentez-vous cette actualité? On a rendez-vous donc, on se donne rendez-vous demain à 11h.
Et tout à l'heure, ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Nico Kalambay qui a réalisé Parole aux auditeurs. Polydor Basunga était à la mise en onde des Pyro et la Miju vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve demain pour un autre numéro. En attendant, l'émission est sur www.radiocapille.net. Merci. Au revoir.